Et le journal vous est présenté par Timur Öztürk. Bonjour Timur.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le gouvernement en a fait un élément important de sa campagne de communication sur la vaccination. 35 citoyens tirés au sort se réunissent aujourd'hui pour la première fois. Représentatifs de la société française, ils émettront des avis consultatifs sur la stratégie vaccinale de l'exécutif. Tandis qu'au Royaume-Uni, où la campagne de piqûre a déjà commencé depuis plus d'un mois, la vitesse d'immunisation de la population accélère encore un peu.
Dans ce journal, nous irons au chevet du secteur de l'hôtellerie, frappé par la crise économique et sanitaire et où les plans de licenciement se multiplient.
Nouvelle journée de mobilisation dans la rue contre la loi sécurité globale. La police, elle, est sur Snapchat pour adoucir son image. Les États-Unis se préparent à l'investiture de Joe Biden dans la crainte de manifestations violentes. Et puis nous irons en Éthiopie, dans la région du Tigré, où la guerre a déjà fait 10 semaines de ravages.
Et dans la deuxième partie des matins, après votre journal, l'essayiste Giuliano D'Ampoli, ancien conseiller politique de Matteo Renzi, auteur du livre Les ingénieurs du chaos pour parler politique et algorithmes. États-Unis, Italie et État des démocraties.
Ils doivent porter les doutes, les craintes et les espoirs des Français concernant la vaccination contre le coronavirus. 35 citoyens tirés au sort sont réunis pour la première fois aujourd'hui sous l'égide du Conseil économique, social et environnemental et à la demande du Premier ministre Jean Castex. Un collectif citoyen amené à formuler ses observations à l'exécutif. Rosalie Lafarge.
18 femmes et 17 hommes. Ils viennent de toutes les régions, y compris l'outre-mer, représentent toutes les tranches d'âge, tous les niveaux d'études, toutes les catégories socio-professionnelles et surtout toutes les positions quant à l'opportunité de la vaccination. 17% d'inquiets, 45% d'indécis et 38% de personnes plutôt favorables, a priori, selon le Conseil économique, social et environnemental. Et ce panel voulu représentatif a un objectif très clair d'après Marie-André Blanc, présidente de la commission temporaire du CESE chargée de piloter le dispositif.
La mission du collectif citoyen, elle n'est pas de faire des propositions politiques sanitaires et vaccinales. Il s'agit de remonter leurs craintes, leurs observations, les recommandations pour aider à faire de cette campagne, évidemment, un succès. Mais ni le conseiller économique, ni le collectif citoyen ne sont là pour écrire la loi.
Les citoyens se réuniront une fois par mois, à distance, au moins dans un premier temps, pour échanger, débattre, entendre des experts et formuler donc des recommandations. La commission temporaire s'engage, elle, à les faire remonter. Et c'est capital pour Stéphanie Goujon, co-rapporteur de cette commission.
C'est très important que la société civile organisée, que les citoyens, donc avec cette forme de démocratie augmentée, puisse avoir un cadre de dialogue, de consultation, de participation, qu'on puisse s'assurer aussi de cette manière que toutes les opinions trouvent un écho auprès des pouvoirs publics.
Des pouvoirs publics libres de suivre ou non les recommandations d'un collectif jugé gadget, voire grotesque par l'opposition. Un premier rapport d'étape est prévu pour le 23 février.
Les personnes âgées de plus de 75 ans doivent pouvoir se faire inoculer le vaccin à partir de lundi. Nouvelle phase de la campagne française. Plus d'un million de rendez-vous ont déjà été pris. Mais l'Élysée prévoit d'ajuster le rythme des vaccinations, car le laboratoire américain Pfizer annonce 3 à 4 semaines de retard de livraison en Europe pour cause de travaux de rénovation en vue d'accroître les capacités de production de son usine en Belgique. Au Royaume-Uni, en revanche, la vaccination s'intensifie. Premier pays au monde à avoir commencé sa campagne il y a un peu plus d'un mois. Il compte déjà 3 200 000 personnes ayant reçu au moins une dose, des personnes de plus de 80 ans et des travailleurs du domaine de la santé. Mais le gouvernement britannique veut accélérer encore avec l'ouverture de 7 nouveaux centres nationaux, Richard Place.
À 72 ans, Alastair a dû prendre sa retraite plus tôt que prévu. À cause du virus, ce médecin a rangé son stéthoscope l'année dernière. À son âge, il ne figure pas encore parmi les personnes prioritaires pour être vacciné. Mais quand le médecin du coin l'a appelé, il n'a pas hésité une seconde. En fait, le praticien disposait d'un stock plus important que prévu et les doses allaient périmer. Alastair en a profité, il a relevé sa manche et reçu la première injection.
Et j'ai pensé que c'était un soulagement. En plus, j'ai eu droit au Pfizer-BioNTech, le plus cher des vaccins. Ça aurait été dommage que personne ne l'utilise.
Le docteur Nick Mann est vacciné lui aussi parce qu'il pratique encore comme généraliste dans le nord-est de Londres et parce que sur son temps libre, il participe à la campagne de vaccination. Quand il vaccine, c'est dans le centre de son quartier, un espace qui permettait 360 piqûres par jour. Au début, le conseil d'arrondissement a trouvé un nouvel endroit pour augmenter la cadence à 800 quotidiennement.
C'est très gratifiant de vacciner les plus âgés. Ils sont extrêmement reconnaissants et soulagés d'avoir enfin cette injection dans le bras.
Dans son cabinet ou dans un centre de vaccination, la seringue à la main, le docteur Mann agit et se désole de voir les rumeurs qui se propagent sur les réseaux sociaux, celles d'un vaccin nocif pour la santé ou qui contiendrait une puce pour transmettre des informations au gouvernement. Lui sait qu'à chaque dose qu'il injecte, il sauve des vies.
Et le Royaume-Uni a également décidé d'imposer dès lundi, en plus d'un test négatif au Covid-19, une quarantaine à tous les voyageurs arrivant de l'étranger, sans exception. En France, c'est ce soir que le couvre-feu avancé à 18h entre en vigueur dans tout le pays et pour au moins 2 semaines.
France Culture 8h06, Timur Özturk, conséquence des restrictions sanitaires et de la crise, l'emploi s'effondre dans le secteur de l'hôtellerie.
Le secteur est en train de connaître le plus grand plan social de son histoire, avertissaient dès septembre les syndicats professionnels. Les annonces de plans sociaux depuis leur donnent raison. 300 à 400 suppressions d'emplois chez Marriott, autant chez Accor, pourtant 6e groupe mondial, près de 800 chez Accor Invest, annoncé cette semaine. Et la tendance ne va pas s'arrêter là, Adrien Taufolet.
Jusqu'à cette semaine, le gouvernement avait fait le choix de soutenir les plus vulnérables du milieu. Mais pour les grands groupes, qui ont pourtant les reins solides, la crise dure depuis trop longtemps pour qu'il n'y ait pas de conséquences. D'autres plans sociaux sont donc à prévoir, s'inquiète Jean-Virgile Kranz, le président du groupement national des chaînes hôtelières.
Chaque structure essaye de retarder le plus possible ce type de décisions si elles doivent être prises. Mais il est tout à fait possible qu'on ait d'autres types de ces annonces.
Les dernières mesures de soutien du gouvernement sont saluées par les professionnels. Mais tout cela permet de faire survivre les structures, mais pas l'emploi, considère encore Jean-Virgile Kranz.
Le gouvernement doit prendre une position très claire sur un maintien du dispositif chômage partiel aux conditions actuelles jusqu'à fin juin 2021 à minima, puisque au vu de la situation, nous savons que la reprise va être longue et va être particulièrement difficile.
Du côté des syndicats de salariés également, on en appelle à l'intervention du gouvernement. Sauver les emplois d'aujourd'hui, c'est anticiper l'après-crise, justifie Gilles Darondel, secrétaire général FTGAFO.
La crise, un jour, va se terminer. Et nous savons très bien que des personnes seront appelées à revenir dans nos hôtels, quel que soit le groupe hôtelier qu'on leur présente. Et en cela, est-ce que demain, nous aurons suffisamment de ressources pour redémarrer ne serait-ce que l'activité ? On aura mis des gens dans une précarité totale pour peut-être dans 2 ans, finalement, avoir besoin de faire appel à eux à nouveau.
Malgré les aides de l'État, les analystes ne se font pas d'illusions. Il y aura une casse sociale, qu'il s'agisse d'encaisser les effets des crises sociales des dernières années, en plus de celles de 2020, du Covid, ou même pour certains, d'un effet d'aubaine en faisant passer des ajustements structurels pour des ajustements conjoncturels.
Les explications d'Adrien Taufolet. Pour le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse, près de 80 rassemblements sont prévus aujourd'hui à l'appel de la coordination d'associations et de syndicats mobilisés contre le projet de loi sécurité globale. Jusqu'ici, aucune des promesses de réécriture du projet ne les a convaincus, comme l'explique Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer chez Amnesty International.
Le texte, il va passer en mars au Sénat. On parle d'une réécriture, on parle d'une fusion avec l'article 18 du projet de loi sur les principes républicains. Mais pour nous, même avec une réécriture, il y a quand même des risques pour la liberté d'expression. Donc, il était extrêmement important de continuer la mobilisation pour défendre la liberté d'informer. Par ailleurs, il n'y a pas que cet article 24 dans la loi. Il y a aussi des articles sur la surveillance de la population qui sont extrêmement inquiétants, que ce soit par des caméras piétons, des caméras embarqués ou des drones équipés de caméras. Donc pour nous, on y voit une menace pour le droit à la vie privée, pour le droit de manifester. C'est pour ça qu'on appelle les gens à se mobiliser. On espère que le maintien de l'ordre sera adapté de manière à permettre aux personnes de s'exprimer. C'est aussi une entrave à la liberté d'expression que de ne pas avoir un maintien de l'ordre qui permette aux gens de descendre dans la rue et de porter des revendications.
Anne-Sophie Saint-Père, interrogée par Anne Fauquemberg. À Paris, la manifestation partira à 14h de la place Daumesnil pour rejoindre celle de la Bastille. Lors de la mobilisation du 12 décembre, le gouvernement qui dénonce les actes de casseurs avait notamment interpellé 150 manifestants, dont certains ont depuis porté plainte contre le préfet de police Didier Lallement pour arrestation arbitraire. Dans ce contexte de défiance, de critique du rôle et des pratiques des forces de l'ordre dans notre société, la police veut reprendre la main. À quelques jours du Beauvau de la sécurité, ce grand débat centré sur la sécurité intérieure, la police nationale débarque sur Snapchat avec l'objectif très clair de s'adresser en particulier aux jeunes adeptes de ce réseau social, assume Michel Laveau, le porte-parole de la police nationale.
Il y a des questions qui se posent sur la police nationale, et c'est légitime, ça s'appelle le débat public. Et il est important que dans ce débat public, il peut y avoir des commentaires, il peut y avoir des critiques, mais il doit aussi y avoir la voix et la parole de la police nationale. Si nous n'intervenons pas sur un réseau social, sur une plateforme, nous risquons en fait de ne pas être entendus. Vous avez 13 millions d'utilisations quotidiennes, donc il y a une communauté solide, implantée, une génération en fait qui a grandi avec Snapchat, et c'est cette génération que nous voulons trouver. Ce que l'on ne veut pas, c'est que la police nationale se résume à telle ou telle image. Nous voulons la faire découvrir de l'intérieur, avec le quotidien des policières et des policiers, leur activité. Nous aurons un ton sans doute plus libre, peut-être plus proche, tout en faisant toujours de la communication institutionnelle, tout en faisant preuve de pédagogie, d'explication, pour évidemment, et au final, peut-être susciter, et surtout susciter des vocations.
Le compte a été ouvert lundi dernier et dispose actuellement d'un peu plus de 25 000 abonnés. Il n'y aura pas de mariage franco-canadien. Couche-Tard abandonne ses vues sur Carrefour. Selon les agences Bloomberg et Reuters, le groupe canadien retire son offre après le veto du gouvernement français opposé à ce rapprochement. Des militaires et des fortifications en plein cœur de Washington. La capitale des États-Unis est en état de siège à 4 jours de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Le dispositif de sécurité augmente d'un cran ce week-end sous la menace de l'extrême droite armée pro-Trump, Franck Madvon.
Le FBI en est convaincu, l'investiture est une cible. Un dispositif exceptionnel est prévu pour le jour J, mais aussi avant et après. Dès aujourd'hui à Washington, le Secret Service met en place ce qu'on appelle une zone verte, entièrement sécurisée. Autour du Mall, l'immense esplanade au pied du Capitole, les quartiers alentours sont bouclés, circulation impossible, métro fermé. Depuis plusieurs jours déjà, la capitale américaine est transformée en forteresse. Des milliers de soldats sont déployés. Ils seront 25 000 membres de la garde nationale sur place le jour de l'investiture. Les autorités surveillent les réseaux sociaux, les discussions en ligne entre extrémistes pro-Trump. Un appel a été lancé pour des manifestations en armes demain devant le Capitole à Washington et les sièges des assemblées locales des 50 États. Joe Biden, qui sera à Washington mardi, se prépare à prêter serment dans une ville devenue un camp retranché. Il y aura 5 fois plus de soldats américains dans la capitale qu'en Irak et en Afghanistan réunis.
Et Donald Trump quittera, lui, Washington mercredi à l'aube, quelques heures avant l'investiture de son successeur, direction son luxueux club de Mar-a-Lago en Floride. Eux rêvent de gagner les États-Unis. Au moins 4500 migrants honduriens ont réussi à entrer sur le territoire du Guatemala hier soir, après avoir forcé un cordon policier à la frontière. Ils vont à pied, de nombreuses familles avec enfants parmi eux, et poursuivent vers le nord. Aucune communication avec le reste du monde, pas d'aide humanitaire. La région du Tigré en Éthiopie subit la guerre depuis maintenant 75 jours. L'armée fédérale et les forces érythréennes combattent des dissidents tigréens. Alors que l'on craint le pire pour les civils, des voix commencent à s'élever pour dénoncer des crimes de guerre et la violation du droit international. Noé Auchet-Baudin.
Le mot est lâché des possibles crimes de guerre. C'est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, qui l'écrit sur son blog. La situation va bien au-delà d'une opération de maintien de l'ordre, continue-t-il. Il évoque notamment les nombreuses informations qu'il reçoit en continu concernant des meurtres à grande échelle, des viols, des violences à caractère ethnique, des pillages ainsi que le retour forcé de réfugiés par l'armée érythréenne. Des accusations qui corroborent les propos du haut commissaire pour les réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, qui lui décrit de graves violations du droit international. En ce moment, les Nations Unies n'ont accès qu'à un quart des réfugiés au Tigré, craignant le pire pour le reste d'entre eux, après avoir vu des images satellitaires de destruction dans les camps qui les accueillent. Alors que l'Union européenne a suspendu le versement d'une partie de son aide financière à l'Éthiopie pour demander un accès indépendant aux humanitaires, 2 sénateurs américains, un démocrate et un républicain, proposaient en décembre que des sanctions soient prises à l'encontre des responsables de violations des droits de l'homme.
Noé Auchet-Baudin. Qui pour prendre la tête de la CDU, le parti d'Angela Merkel, cherche un successeur à la chancelière allemande? Un congrès départagera aujourd'hui 3 candidats, Friedrich Merz, Armin Laschet et Norbert Röttgen. Le résultat doit être connu à la mi-journée. 26 départements français, dont Paris et toute l'Île-de-France, sont placés en vigilance orange neige-verglas aujourd'hui. Les premiers flocons arrivent par la Normandie. Ce matin, les gelées concernent presque tout le pays. Dans l'après-midi, on comptera de -1 à 4 degrés du nord-est au Massif central et aux Alpes, 4 à 9 degrés ailleurs.